Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons la séance sur les politiques de la jeunesse, sur le mouvement lycéen et étudiant. Et cette séance, elle se veut une confrontation des expériences, puisque nous avons deux intervenants qui vont nous parler à la fois des mobilisations de la jeunesse pendant la contestation de la loi travail, mais également des mobilisations de la jeunesse au Brésil en 2015 et 2016. Donc pour cette séance, nous avons le plaisir d'accueillir Abel Bédécarax, qui est membre de la rédaction de La Révolution Permanente et qui vient de soutenir son master en philosophie à l'Université Paris 1, ainsi que Louise Poulain, qui vient de soutenir son master en sciences politiques. Et on va commencer par l'intervention de Abel Bédécarax, qui s'intitule « Le caractère politique et les enjeux stratégiques du mouvement étudiant et lycéen ».
Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Pour introduire très rapidement en deux mots mon intervention, je voulais revenir parler ici du caractère, comme on vient de le dire, du caractère politique et des enjeux stratégiques du mouvement étudiant et lycéen. C'est-à-dire essayer d'examiner ces possibilités dans le cadre de la lutte des classes, dans le cadre des mouvements sociaux, etc. C'est-à-dire ce que le mouvement lycéen et étudiant peut apporter en propre, stratégiquement, et essayer de dépasser un modèle, d'analyse éculée, médiatique et fantasmée, d'une jeunesse dont la radicalité serait comme atemporelle et comme vissée à elle de manière un peu inhérente, intrinsèque et presque physiologique. De par simplement le fait qu'elle est jeune, en fait, et qu'elle s'opposerait, aux modèles anciens de par son énergie, mais que, au fond, cette radicalité serait un petit peu quelque part une radicalité sans profondeur, une radicalité superficielle. Donc, à mon avis, il faut essayer d'examiner ces éléments au travers d'une analyse aussi sérieuse que possible, à mon avis, des transformations de l'université, du cadre dans lequel évolue justement cette jeunesse scolarisée, qui est donc le sujet, évidemment, le sujet politique de ces mouvements scolaires. Donc, pour commencer rapidement, et autour, d'une date évidemment clé pour nous, qui est 1968, je voulais revenir sur la transformation profonde du mouvement lycéen et étudiant dans sa nature, ses dimensions, sa radicalité, ses objectifs. Donc 68, à ce titre-là, est assurément la concrétisation la plus saillante, de cette transformation. Et donc les années 68-70 voient donc dans tous les pays capitalistes centraux et émergents, donc des États-Unis au Japon, en passant par l'Europe, l'Amérique centrale, éclater de larges grèves étudiantes, nouvelles dans leur ampleur et leur radicalité politique, je dirais même dans leur positionnement politique. En fait, ces années entérinent donc une transformation globale, profonde et irréversible du mouvement étudiant et scolaire. Alors que durant les décennies 1848-1948, les étudiants profondément ancrés à droite et à l'extrême droite jouaient un rôle réactionnaire et souvent contre-révolutionnaire, en allant par exemple détruire ou casser les piquets de grève manu militari, la seconde partie du XXe siècle voit au contraire l'émergence d'un mouvement étudiant de gauche radical et pro-ouvrier. Cette transformation n'a rien d'une saute d'humeur et ne peut se comprendre qu'au regard des transformations des rapports sociaux de production et de la crise de l'université bourgeoise qui l'accompagne. Le développement des forces productives en Europe et aux États-Unis et au Japon a exercé une immense pression sur l'université traditionnelle d'alors, et a exercé une immense pression donc sur cette université traditionnelle pour que celle-ci produise les masses de travailleurs intellectuels dont l'économie avait nouvellement besoin. À cette pression s'en est ajoutée une autre, celle qui a accompagné le développement des pays émergents, donc le Japon à cette période, dans une moindre mesure la Chine, maintenant c'est dans une très large mesure, les pays d'Amérique du Sud, etc. Et qui, en accentuant la division internationale du travail, a accentué d'autant les besoins en personnel qualifié dans le secteur des services notamment, mais aussi dans l'industrie, dans les pays capitalistes centraux, et donc dans le secteur des services qui s'y est très largement développé. Donc le premier point introductif est le suivant. L'histoire du mouvement étudiant, à mon avis, est avant tout l'histoire des crises de l'université bourgeoise. Donc le premier corollaire de cette affirmation se déduit aisément. Celles et ceux qui veulent examiner les possibilités stratégiques du mouvement scolaire, au sens large, hein, de mouvement étudiant et lycéen, c'est ça que je veux dire par cette expression, ne peut faire l'économie d'une compréhension sérieuse, enfin aussi sérieuse que possible, disons, des dynamiques à l'œuvre dans la transformation de l'université, dont la période initiée en 2007-2009 sous l'aspect d'un tournant libéral et autonomiste est l'expression la plus marquante, donc notamment avec la LRU hein, qui a été donc affrontée dans la rue par les étudiants et les enseignants-chercheurs. Et le personnel des universités. Donc, j'ai tenté de brosser rapidement ce tableau pour mettre l'accent sur un fait essentiel selon moi, c'est que la radicalité et les objectifs des mouvements de la jeunesse scolarisée ne sont pas atemporels pour l'une et abstraits pour les autres. Je pense au contraire qu'ils sont l'expression d'un corps social distinct, déterminé, inscrit dans une période particulière et qu'ils sont les uns et les autres très largement déterminés par la nature des crises que traverse l'université ainsi que par les mutations des rapports sociaux de production. Donc, je veux développer rapidement ça. Pour ça, j'aimerais faire un petit détour par une caractérisation, disons, à grands traits du mouvement scolaire, du mouvement étudiant et son sujet politique, c'est-à-dire la jeunesse scolarisée. Les étudiants et les lycéens, plus largement donc les jeunes scolarisés, hein, constituent une base sociale par définition hétérogène et transitoire. À sa nature transitoire correspond un mode de contestation fondamentalement spontané. Les étudiants se mobilisent souvent massivement et spontanément, avec tout ce que cela comporte de limites, mais là-dessus on y reviendra. Et leurs mots d'ordre sont nombreux, souvent inventifs, mais aussi contradictoires et confus. De plus, comme l'affirme Mandel Ernest Mandel, hein, donc dans les étudiants, les intellectuels et la lutte des classes, la position de classe de l'étudiant est par essence virtualisée, c'est-à-dire qu'elle se situe dans une phase transitionnelle, son appartenance délimitée à une classe sociale n'est pas encore pleinement accomplie et déterminée. En cela, déjà, se manifeste l'un des effets notoires de la première grande crise de l'université bourgeoise, la seconde moitié du XXe siècle, à savoir l'explosion des effectifs universitaires. On n'est pas sans savoir que, évidemment, c'est l'une des causes et des conditions premières et centrales de l'explosion étudiante de mai 68. Donc, l'étudiant traditionnel de l'université bourgeoise traditionnelle d'avant-guerre est d'emblée un bourgeois ou un petit bourgeois, venu là pour engranger les connaissances nécessaires à l'administration de la nation, de l'armée ou des colonies, ou à la gestion du capital, soit directement comme propriétaire, soit comme auxiliaire du propriétaire. Donc, il y a ici une différence donc, entre l'étudiant, disons, de l'université bourgeoise actuelle, hein, qui poursuit hein, cette crise de l'explosion des effectifs, hein, parce que, comme vous le savez, les effectifs scolaires, on en parle d'ailleurs depuis cette rentrée, les effectifs scolaires et universitaires augmentent, en nombre absolu et proportionnellement. Je veux dire, aujourd'hui, les 2,5 millions d'étudiants inscrits dans les universités du pays représentent environ 8,6%, de calcul très approximatif, hein, mais qui donne un ordre d'idée, 8,6% de la population active. Donc c'est une part quand même substantielle quoi, des masses susceptibles de participer aux mouvements sociaux, aux mouvements de contestation, etc. Alors que l'étudiant, disons, traditionnel de l'université traditionnelle, lui, est déjà inscrit comme tissé, son appartenance de classe est déjà préétablie avant son entrée même dans l'université, qui est une université fondamentalement bourgeoise pour les enfants et les fils et les filles de la bourgeoisie, etc. Et qu'il n'y a pas ce caractère, disons, plus transitoire ou transitionnel, un peu plus flottant qu'on peut retrouver actuellement. Donc au contraire, la condition donc, de l'étudiant d'après-guerre, elle est fluctuante, à l'exception évidemment de l'élite scolaire et sociale, hein, qui existe toujours, hein, ce qui est d'ailleurs un des éléments un petit peu qui brouille peut-être un petit peu les pistes aussi. Et donc la condition de l'étudiant d'après-guerre est relativement indéterminée. Un enfant de petit commerçant aisé, donc un petit bourgeois sociologiquement, peut devenir un salarié ou un fonctionnaire exploité, percevant tout au plus un salaire d'ouvrier qualifié à l'issue de ses études et son insertion dans le monde professionnel. Donc avec la croissance des effectifs scolaires, et notamment universitaires, la tendance s'accentue de plus en plus. Or, cette mutation profonde de la nature de l'étudiant, qui repose sur la transformation dans les pays capitalistes et sous la pression du développement des forces productives de la condition du travailleur intellectuel, a jeté les bases, à mon avis, d'une redéfinition des rapports étudiants-ouvriers, jusque-là très franchement antagonistes, et ouvert de vastes perspectives stratégiques pour la lutte des classes. L'ouvrier se méfie moins de l'étudiant qui n'est plus, et très justement, mécaniquement le futur exploiteur ou administrateur de l'exploitation ou des appareils de domination capitaliste, donc comme l'État, l'armée, la police, la justice, etc. Donc l'expansion extraordinaire des effectifs universitaires pour répondre aux besoins nouveaux de la machine capitaliste a pour effet immédiat la prolétarisation du travail intellectuel. Fait absolument nouveau et absolument singulier dans l'histoire, il faut d'ailleurs le noter. Et pour corollaire subjectif, la conscience de cette prolétarisation dans l'esprit de l'étudiant, évidemment dans des proportions qui vont et qui viennent, disons, en fonction de la conjoncture, et la redéfinition partielle, mais néanmoins spectaculaire, des rapports entre ouvriers et étudiants sur la base de la prise de conscience d'une communauté sociale d'intérêt. Bien entendu, les obstacles idéologiques sont légion, et cette communauté d'intérêt ne se réalise dans les faits que très partiellement. Néanmoins, la tendance est, on ne peut plus clair à mon avis. Donc l'effet absolument irréversible du développement matériel récent de la société est le suivant. C'est la prolétarisation du travail intellectuel, qui, à mon avis, est un fait essentiel pour nous. Précisons une chose, par prolétarisation du travail intellectuel, dont les récentes attaques libérales, au travers notamment de la mesure que j'évoquais tout à l'heure, donc la LRU en 2007 portée par Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement du gouvernement Sarkozy, si vous vous rappelez, dont les récentes attaques libérales sont l'expression la plus franche, et la plus proche aussi, la prolétarisation du travail intellectuel diffère dans sa forme de la prolétarisation du travail manuel. Il ne faut pas confondre. Mandel précise, tandis que la prolétarisation du travail manuel avait impliqué une indifférence toujours plus grande de la bourgeoisie envers la forme spécifique de la qualification ouvrière, autrement dit, avait tendanciellement réduit le travail manuel à sa plus simple et brutale expression, c'est-à-dire sa force au sens large, au contraire, la prolétarisation du travail intellectuel implique que la demande de cette force de travail devienne une demande toujours plus spécifique, donc différence de forme, mais équivalence de contenu. Une plus grande aliénation, évidemment, dans les deux cas, il s'agit d'une plus grande aliénation, d'une aliénation croissante, d'une subordination croissante au capital et à ses injonctions. Donc la prolétarisation est matériellement, disons, le moyen de cette subordination du travail manuel et intellectuel au capital et à son procès d'autovalorisation. Donc la prolétarisation croissante du travail intellectuel et les mutations de la demande en main-d'œuvre qualifiée aggravent la crise de l'université bourgeoise et les objectifs des mouvements scolaires se voient progressivement requalifiés. La période 2007-2009, donc, et les deux mouvements de grève correspondants, donc le premier, la LRU que j'ai évoqué, et le second, c'est-à-dire la grève du premier semestre 2009, à l'initiative des enseignants-chercheurs et des personnels des universités et suivis par les étudiants, semble marquer un tournant dans la nouvelle crise de l'université bourgeoise et clore relativement une longue période initiée en 68 et dont le point d'orgue a été assurément le mouvement contre la loi Devaquet en 86 qui prévoyait la sélection à l'université, dont on reparle actuellement, et l'autonomisation, ce que la LRU instaurera plus tard. 68, évidemment, ayant des caractéristiques un petit peu uniques et une forme d'exception, de par la situation pré-révolutionnaire qu'elle a engendrée, et que le mouvement étudiant a engendrée. Or, à cette tendance à la subordination grandissante du travail intellectuel et la mutation du mode de soumission du savoir et des producteurs de savoir au capital, correspond, semble-t-il, une tendance à la lutte contre la précarité, au sein même de l'université, j'entends, et plus uniquement dans les ateliers, les usines, les lieux de travail, etc. Qui me semble être le mot d'ordre incomplet de la lutte contre l'exploitation. Et donc, je parle ici des mouvements contre le CIP, le contrat d'insertion professionnelle en 94, qui est une lutte étudiante, le CPE, évidemment, en 2006, lutte emblématique contre un contrat précarisant les emplois jeunes, et dans une moindre mesure la réforme des retraites et bien entendu la loi travail en 2016. Et la loi travail en 2017, espérons-le. Ces éléments sont très clairement donc un infléchissement, à mon avis, dans les objectifs des mouvements scolaires et posent les jalons de nouvelles perspectives pour la lutte des classes. Cette aliénation croissante du travail intellectuel et le morcellement des chances universitaires et des diplômes, donc effet absolument notoire de la LRU d'ailleurs, a de toute évidence sapé certaines conditions de l'émergence des grands mots d'ordre culturels et superstructurels qui ont été traditionnellement ceux des mouvements scolaires de masse. Évidemment, 68 en est l'expression, à mon avis, la plus à la fois accessible et puis esthétiquement bien nette. On pourrait donc analyser, à mon avis, cette transformation comme l'un des effets de la mutation progressive actuelle de l'université comme appareil idéologique d'État en appareil idéologique désétatisé. Mutation qui accompagne la prolétarisation du travail intellectuel. J'espère qu'on pourra revenir dans la discussion sur ces éléments. Alors que la première crise de l'université bourgeoise a eu pour effet ces grands mouvements de contestation de l'ordre hiérarchique, de la bureaucratie et de l'élitisme de l'université traditionnelle qui entrait en contradiction violente avec le nouveau corps social étudiant émergent, les mots d'ordre actuels semblent porter davantage sur les conditions de travail elles-mêmes, donc les stages, les apprentissages, les contrats précaires, etc. Preuve que le diplôme en tant que tel ne cristallise plus toutes les inquiétudes, mais que c'est directement dans le rapport au patronat, à l'exploitation, etc. que la question se pose. Et la question d'ailleurs de la précarité, c'est pour ça que j'appelais ça un mot d'ordre incomplet, c'est-à-dire que, à mon avis, il faut voir dans ces mots d'ordre plutôt le reflet, d'abord et avant tout le reflet un peu plus superficiel, disons, d'une inquiétude liée aux attentes sociales de la population étudiante vis-à-vis des diplômes et des études universitaires qu'elle effectue. Mais en même temps, il y a évidemment dans la question de la précarité, la question sous-jacente et centrale de l'exploitation. Donc une sorte de, comment dire, de possibilité, de porte ouverte à des éléments de jonction et de réflexion commune avec les travailleurs et de solidarité et d'une communauté objective et matérielle d'intérêt. Donc je voudrais maintenant évoquer quelques pistes de réflexion stratégique et d'orientation, hein, puisque c'est ça aussi mon objet ici, à l'aune de ce que je viens d'évoquer rapidement. Donc la question stratégique, à mon avis, se divise en deux volets distincts, mais qui sont complémentaires. Le premier concerne de près la situation complexe à laquelle nous sommes confrontés, hein, en tant qu'étudiants, en tant que lycéens, sur le terrain. Par le fait du caractère transitoire, justement, de la condition étudiante, nous sommes sans cesse confrontés au problème de la reconstruction de ce qui n'est pas durable ou pérenne, c'est-à-dire nos organisations. C'est le point central, à mon avis. La pratique démontre avec force combien il est essentiel de travailler à la construction d'une organisation pérenne. La condition étudiante est par essence transitoire, ce que je viens de dire. La fac ne peut pas être donc abordée comme une grande usine, tactiquement, disons, stratégiquement. Quand une lutte passe, l'expérience se dissout très rapidement sans structure pour sauvegarder certains acquis. De plus, la période récente a prouvé combien les organisations héritées de la période CPE-LRU, donc de 2006 à 2009, étaient incapables de jouer leur rôle de moteur et de constructeur des mobilisations à moyen terme. Ici, ça, je parle évidemment de notre expérience de la loi travail en 2016, où on a eu objectivement de grandes difficultés à massifier. Il se trouve que nos outils organisationnels se sont avérés ne pas être à la hauteur, très clairement, et même parfois des freins, de par leur aspect, disons, trop décomposé et bureaucratisé. Donc ce qui ajoute un point, à mon avis, hein, l'organisation que les étudiants doivent construire, prendre la forme d'une organisation partie, donc ouverte aux branches professionnelles, et qui se donne comme tâche de construire cette union théorique-pratique avec les travailleurs et entre travailleurs et étudiants. C'est la seule manière, à mes yeux, de conjurer l'obstacle idéologique monumental auquel font face les étudiants. De plus, cette organisation partie doit être révolutionnaire, c'est-à-dire doit poser radicalement et frontalement la question de la transformation des rapports de production et de la socialisation de leurs moyens, c'est-à-dire du capital. La raison à cela est qu'en cette période de crise et de pourrissement du système capitaliste, la perspective d'une administration du capitalisme est une chimère. Et dès lors, si les étudiants se mettent à raconter des comptes aux ouvriers et aux travailleurs, ils sont très vite impitoyablement démasqués et rejetés. Donc à cela s'ajoute le problème du morcellement extrême des différentes filières, hein, donc effet de la LRU, enfin, qui s'accentue, disons, avec la LRU, et des filières donc mobilisables à des échelles très différentes. On mobilise par exemple très différemment, ceux qui ont participé au mouvement contre la loi travail ont dû le remarquer, très difficilement et très différemment les secteurs les plus prolétarisés, justement, donc les secteurs de la communication, commerce, etc., enfin les branches, je veux dire les filières universitaires. La raison fondamentale à cela tient à la fluctuation, à mon avis, spécifique et très spécifique même de l'offre et de la demande en travailleurs qualifiés et intellectuels. Une filière s'ouvre des suites d'une pénurie en main-d'œuvre qualifiée dans un secteur déterminé, ce qui provoque aussi un afflux massif d'étudiants attirés par l'espoir de trouver un travail rapidement. Mais cet afflux soudain et massif finit néanmoins par avoir l'effet inverse et l'offre devient à retardement supérieure à la demande. Donc pour mobiliser les étudiants de ces filières, les militants doivent impérativement être en mesure d'expliquer ce phénomène spécifique des fluctuations de l'offre et de la demande en main-d'œuvre qualifiée et ne pas désespérer a priori de tout succès, ce qui a été une des tares, à mon avis, de notre approche dans la question de la massification du mouvement au printemps 2016. Donc l'un des remèdes possibles à cela pourrait aussi être de forger plus étroitement et plus systématiquement des liens avec nos camarades lycéens. Les effectifs scolaires des lycées équivalent ceux de l'université. Ils sont aux alentours de 2,5 millions. Il serait donc irresponsable et surtout scandaleux de les prendre à la légère. L'autre avantage tient au caractère encore plus soudainement transitoire de la condition de lycéen. Il suffit d'une, deux ou trois années pour que le lycéen devienne étudiant ou travailleur. Cette faiblesse structurelle est aussi une force. Nous pouvons plus efficacement, à mon avis, diversifier nos réseaux et nos contacts par ce biais et mieux éviter le problème du confinement, qui est aussi un des problèmes qu'ont rencontré les organisations et les structures qui ont émergé de la période 2006-2009. En tant que force sociale, les lycéens représentent une masse absolument pas négligeable, mais la répression policière et idéologique, dont la répression administrative est une composante centrale, est féroce. C'est pourquoi je pense qu'on devrait se donner comme tâche de construire partout où cela est possible et quand ce n'est pas possible de travailler pour que cela le devienne, des liens de solidarité, de coopération et de défense, enfin surtout des liens organisationnels, vraiment d'égal à égal avec nos camarades lycéens, pour ne pas et ne pas les utiliser scandaleusement comme bélier de la mobilisation. Je vois dans cette perspective le moyen de remédier efficacement aux obstacles de construction qui appartiennent structurellement à l'université, donc le morcellement des filières et l'hétérogénéité des parcours. Le problème de l'orientation est aussi un problème de mot d'ordre. Le caractère inventif et foisonnant des mots d'ordre étudiants est une qualité bien souvent, une force même, face à la monotonie syndicale. Cependant, ça peut aussi s'avérer une faiblesse. À mon avis, être désinvolte dans la formulation des mots d'ordre, c'est ne pas comprendre qu'ils sont les premiers ponts que nous pouvons jeter entre nous et nos camarades travailleurs et ouvriers. Tout est fait pour que cette union ne se réalise pas. Or, pour que ces mots d'ordre fassent mouche, il faut qu'ils soient recevables. Il faut donc se donner une tâche, et là l'organisation Parti Révolutionnaire a un rôle central à jouer, de penser comme tâche, donc de penser soigneusement nos mots d'ordre, et de défendre l'université gratuite, par exemple, et ouverte à tous, est un intérêt historique central de la classe ouvrière. Revendiquer une allocation d'études universelles dans des conditions actuelles semble au contraire dénuée de toute pertinence. Combattre la casse du code du travail et pour l'abaissement du temps de travail, et systématiquement pour l'abaissement du rythme des cadences, est une revendication transversale susceptible d'unir les travailleurs qui luttent contre l'exploitation et l'extorsion de plus-value, et les étudiants qui sont aussi dans une large mesure travailleurs eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins, et qui ont donc tout intérêt en tant qu'étudiants à ce que le temps de travail soit abaissé et les cadences ralenties, et non pas à devenir des pensionnaires de l'État. D'autres mots d'ordre et revendications pourraient être explorés et examinés, comme l'ouverture de l'université aux chômeurs et chômeuses, qui pourrait être un moyen efficace d'unir travailleurs et étudiants objectivement dans leur vie déjà, ainsi que d'alléger un peu la pression que le chômage structurel impose à l'ensemble de la classe. Donc voilà, ça c'est. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'énonciation, l'énumération de ce que j'estime être des pistes de réflexion pour mieux orienter le mouvement étudiant qui s'est de toute évidence heurté à beaucoup de tares, mais à mon avis aussi pour insister sur le fait qu'il ne faut pas être victime de démoralisation et abandonner aussi tout espoir de pouvoir construire des liens durables et des mouvements de masse et de perdre de vue l'importance stratégique que peut avoir le mouvement étudiant. Donc je laisse la discussion ouverte autour de ces problèmes. J'espère avoir réussi donc à montrer d'une part que la radicalité et les objectifs des mouvements scolaires ne sont pas abstraits, et qu'ils doivent faire l'objet d'une réflexion attentive, qu'ils ne fassent pas preuve de désinvolture, et d'autre part que les mouvements étudiants ne sont ni vains ni centraux. C'est-à-dire qu'ils dynamisent de toute évidence les mouvements sociaux d'ampleur, ainsi que les calendriers syndicaux verrouillés par les directions des appareils. De plus, ils sont un contaminateur efficace de mots d'ordre, d'où la nécessité de prendre leur élaboration au sérieux. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la seconde intervention et ensuite on laissera la parole à la salle pour des questions et des remarques. Donc la seconde intervention s'intitule « École en lutte à Sao Paulo, résistance et politisation de la jeunesse au Brésil en 2015-2016 ».
Voilà. Alors, on parle de précarisation du travail intellectuel. Ça tombe bien parce que moi, j'ai pas eu le temps de préparer de façon très, très construite mon intervention. Donc, j'espère que ce sera compréhensible pour tout le monde. Je vais d'abord, en fait... je vais présenter, moi, le travail de recherche, enfin, l'aboutissement de mon travail de recherche de cette année en sociologie politique et sociologie des mouvements sociaux, où j'ai eu l'occasion de réaliser un travail de terrain et de discuter à la fois avec des lycéens à São Paulo, mais aussi avec des professeurs et voilà des gens qui ont eu l'occasion de témoigner de ce mouvement. En fait, c'était un mouvement d'occupation d'école en 2015 puis en 2016. Je vais revenir un peu après sur exactement le déroulé des événements, mais d'abord je voulais revenir sur la situation générale politique au Brésil pour que en fait on puisse en discuter, et parce que je sais pas si on est tous à un même niveau de connaissance là-dessus. Globalement, sur pour aller assez rapidement, la situation du Brésil, en fait, elle est marquée et elle a été marquée par une arrivée au pouvoir en général en Amérique latine au début des années 2000 de gouvernements de gauche. Au Brésil, c'est le gouvernement du Parti des Travailleurs, du PT, de Lula, qui arrive au pouvoir en 2006. Il faut savoir également que les mouvements sociaux en fait massifs, des mobilisations de masse au Brésil, c'est quelque chose qui a surtout été présent pendant la période de redémocratisation, donc dans les années 70-80, et notamment avec la création du PT, parce que c'est la création du PT, c'est en fait plein de réseaux, de syndicalistes, d'associatifs, de féministes qui font que aujourd'hui, quand bien même le PT au pouvoir en fait s'est affronté à une crise, et à partir de 2013, en termes de base militante, c'est et de travail, voilà, de mobilisation de base, ça reste une organisation cardinale, on va dire, pour la gauche et les mouvements sociaux en général. Au Brésil, la crise du PT au pouvoir, elle commence véritablement avec les mouvements de manifestation de 2013. En 2013, en fait, on a dans les gouvernements fédéraux, puisque le Brésil est un État fédéral, on a plusieurs gouvernements qui choisissent d'augmenter en fait le prix du billet de transport public. Et ça va entraîner en fait des mobilisations massives dans ces différents États, et qui en fait vont se fédérer globalement et vont agglutiner toutes les revendications et les critiques face au parti des travailleurs qui est au pouvoir. Donc c'est à la fois des critiques des mouvements sociaux plus sur sa gauche, qui critiquent en fait une néolibéralisation des politiques publiques qui sont menées par le parti des travailleurs, mais c'est aussi en fait une droite qui arrive dans la rue, et ça c'est un phénomène qui est assez nouveau, sur des questions de corruption. Et donc alors il y a, c'est un climat politique qui est assez tendu. Il y a la crise économique, les répercussions de la crise économique de 2010 qui arrivent, et en fait on voit dans les manifestations de 2013, dans les premiers jours des manifestations, c'est le mouvement Passe Livre, Movimento Passe Livre, qui est un mouvement donc pour la gratuité des transports, qui organise en fait les premières manifestations en 2013 dans les États fédérés. Et au fur et à mesure de la mobilisation, qui dure pendant plusieurs mois, en fait les médias changent de positionnement et cessent de critiquer les personnes qui sortent dans la rue, et en fait vont créer une opposition, comme il y a eu pendant le mouvement sur le travail, quelque chose qu'on connaît bien, une opposition entre les manifestants, on va dire, pacifiques et les casseurs. Et ça, en fait, va favoriser une classe moyenne qui arrive dans la rue sur des revendications nationalistes avec le drapeau brésilien, etc., et contre la corruption. En fait, le mot d'ordre de contre la corruption, c'est aussi un mot d'ordre contre le PT au pouvoir et pour l'impeachment de Dilma Rousseff. Ces manifestations de 2013, elles sont victorieuses, et c'est des manifestations massives dans tout le pays. Mais l'issue de ces manifestations-là, c'est la création, en fait, de mouvements anticorruption qui se veulent apartisans et qui vont militer activement en 2015 et en 2016 en faveur de l'impeachment de Dilma Rousseff. Donc Dilma Rousseff, elle a dû quitter le pouvoir suite à la procédure d'impeachment en 2016. C'est une procédure institutionnelle qui est passée au Parlement et au Sénat de avril à août 2016. Ce qu'il faut savoir, et qui est pas toujours très clair, c'est qu'en fait Dilma Rousseff elle-même n'était pas visée par les accusations de corruption. Elle a été en fait sortie du pouvoir parce qu'elle a fait ce qu'on appelle du pédalage fiscal, c'est-à-dire qu'elle a donné, elle a annoncé des mauvais chiffres de croissance économique, et ça a été interprété légalement comme un crime de responsabilité qui a été supprimé en fait le lendemain de la confirmation de son impeachment. Donc mon terrain de recherche, il se situe donc, les événements, c'est en 2015 et en 2016, c'est mobilisation lycéenne à São Paulo, et l'intérêt principal, c'est que c'est des mobilisations qui sont justement à cheval sur cette procédure d'impeachment de Dilma Rousseff. Et en fait, c'est un mouvement d'occupation assez massif et qui va être soutenu par la population assez massivement en 2015, et qui marque en fait un renouveau des pratiques de lutte politique et de militance, qui va en fait qui marque aujourd'hui le renouveau des luttes contre le nouveau gouvernement, donc de Michel Temer, qui a pris la suite suite à l'impeachment de Dilma Rousseff. L'autre intérêt de ce sujet d'étude, c'est que ce mouvement d'occupation a été inspiré par les mouvements d'occupation des écoles au Chili en 2011, et que donc du coup, en fait, il se situe dans le contexte de l'Amérique du Sud plus généralement, sur un peu une conscience des jeunes générations qui n'ont connu en fait que la gauche institutionnelle au pouvoir, une conscience des limites en fait qu'on peut avoir ces gouvernements-là et des problèmes dus à l'accentuation du néolibéralisme, etc. Donc pour faire une petite chronologie, alors le mouvement de 2015 en fait, il part d'une annonce du gouvernement de São Paulo d'une réorganisation des cycles scolaires, c'est-à-dire que dans des écoles où on a l'enseignement fondamental donc jusqu'à 14 ans et l'enseignement moyen de 14 à 17 ans qui sont dans les mêmes écoles, en fait le gouvernement décide que pour des problèmes de gestion, voilà, pour pouvoir gérer plus simplement ces écoles, mais aussi parce que ça permettrait des meilleurs taux de réussite, il faut réorganiser les cycles scolaires et donc différencier les cycles. Les écoles ne pourraient accueillir que soit l'enseignement fondamental, soit l'enseignement moyen. Et ça se traduit... une suppression du personnel dans plein d'écoles, et en plus avec l'annonce de cette réorganisation là, il y a l'annonce d'une suppression en fait de 94 établissements scolaires sur l'ensemble de l'État, et surtout dans l'intérieur de l'État, c'est-à-dire pas dans la capitale mais dans les zones plus rurales. Suite à cette annonce qui se fait par voie de presse et qui en fait est contre la loi, on va dire, dans le sens où le Brésil a dans sa constitution un mode de participation qui fait qu'il y a des conseils scolaires, il y a des conseils de parents, etc., qui sont censés décider des politiques publiques ensemble. En fait, le gouvernement prend une décision unilatérale. Donc il y a d'abord 2 mois de manifestations décentralisées, donc dans plus de 60 villes au total. Et début novembre, il y a une première école qui est occupée et qui va être qui va être suivie. Il va y avoir au total plus de 200 écoles qui vont être occupées. Donc à la fois pas seulement les écoles directement concernées par la fermeture, mais aussi un mouvement de solidarité en fait beaucoup plus large et qui dépasse les statuts administratifs des écoles. Au Brésil, il y a je vais en parler un petit peu. Il y a en fait 2 statuts d'enseignement, l'enseignement basique, on va dire, obligatoire, qui est l'enseignement propédeutique, et l'enseignement technique, qui sont des écoles, en fait, qui ont un enseignement qui vient s'ajouter, et qui sont des écoles qui sont assez élitisées, où il faut passer un concours pour rentrer dans l'enseignement technique, etc., parce qu'elles offrent plus de possibilités de pouvoir trouver un travail à l'issue de la scolarisation. Donc, 2 mois de manifestation, je le disais, plus de 200 écoles occupées dans l'État, et en fait, qui vont se mettre à les écoles sans se coordonner, en fait, vont se mettre à être occupées par les lycéens quasiment au même moment, en fait, en moins d'une semaine. Il y a une augmentation de 150 écoles qui vont être occupées. La réforme a été suspendue début décembre, donc après plus d'un mois d'occupation de ces écoles, qui en fait sont devenues du coup des lieux de vie où on mange, on s'organise collectivement pour dormir, pour faire des tours de surveillance, pour se protéger de la police, pour se protéger des infiltrations, etc. Et on organise aussi des cours en fait avec soit des militants, soit des professeurs, des syndicalistes, etc., qui vont donner des cours à ces lycéens sur des sujets qu'ils choisissent, avec des pédagogies un peu alternatives, en essayant d'innover et justement de rendre cet aspect émancipateur à la base à l'institution scolaire. L'annonce de la suspension par le gouvernement, il y a d'abord un problème de manque de garantie, en fait, puisque la réforme est juste suspendue et de fait, malgré cette annonce-là, elle va s'opérer en fait dans les mois d'après. Les écoles restent occupées jusqu'en janvier, avec une désoccupation qui est progressive et qui s'allie avec un retour à la rue sur un mode assez radical et des modes de protestation en fait qui sont issus des mobilisations de 2013 pour le coup de blocage d'avenues et d'axes stratégiques en fait sur l'ensemble du territoire de São Paulo, qui est la capitale économique du Brésil, donc du coup qui a aussi une importance ces blocages d'avenues et de routes. Voilà pour le mouvement de 2015. Et en fait, en janvier 2016, donc juste à la suite, il y a un autre élément déclencheur qui va relancer en fait le processus d'occupation des écoles à São Paulo. Et cet autre élément déclencheur, pour le coup, c'est pas quelque chose de matériellement visible comme la fermeture d'établissements, mais c'est le début d'une investigation en fait pour corruption qui vise le président de l'Assemblée législative de São Paulo. Et en fait, cette investigation, elle s'appelle Alba Blanca elle vise en fait un énorme réseau de corruption, de détournement et de blanchiment d'argent public, des fonds en fait qui sont destinés aux cantines scolaires dans l'ensemble de l'État de São Paulo. Donc cette opération, elle commence juridique, elle commence en avril au même temps en fait que la procédure d'impeachment de Dilma Rousseff commence. Et là en fait, on va réavoir une réactivation donc des occupations d'écoles qui beaucoup plus difficile en fait en 2016 qu'en 2015. D'abord du fait du contexte politique national et de l'impeachment, puisque en fait on a des mouvements sociaux et des secteurs qui en 2015 ont soutenu la mobilisation des lycéens par une aide matérielle en apportant de la nourriture, en apportant des couvertures, etc. pour qu'ils puissent vivre dans les écoles. Où en fait ils sont c'est tous ces secteurs syndicaux en fait sont en difficulté parce que focalisés sur le processus national et se mobilisent pas du coup sur ce point spécifique des cantines scolaires, etc. Il y a aussi un deuxième facteur qui fait que ces occupations en 2016 sont plus difficiles qu'en 2015, c'est que les lycéens qui sont directement touchés par la question des cantines scolaires, en fait, c'est les lycéens justement de ces écoles techniques qui sont plus élitisés. Pourquoi ? Parce que on va dire les lycéens qui ne suivent que l'enseignement propédeutique basique le suivent le matin et l'après-midi rentrent chez eux, tandis que les lycéens qui sont dans ces écoles techniques suivent le matin l'enseignement propédeutique et l'après-midi doivent changer d'établissement pour poursuivre leurs cours techniques, ce qui fait que ils sont dépendants effectivement de l'offre de cantine scolaire et que dans plein d'établissements cette offre de cantine scolaire elle est défaillante, soit la nourriture est périmée, soit en fait juste il n'y a pas de nourriture. C'est à la suite de cette affaire de corruption que en fait les étudiants ils vont commencer à revendiquer la qualité de leur cantine scolaire et en même temps se mobiliser contre la corruption. Pas seulement des écoles techniques qui sont occupées, mais aussi des écoles propédeutiques en solidarité avec ce mouvement. Et là où il y a une inflexion en fait par rapport aux mobilisations et aux occupations de 2015, c'est que les occupations vont concerner des lieux beaucoup plus centraux. Il y a deux lieux qui sont symboliques de ce mouvement en 2016. D'abord, l'occupation du centre Paola Souza, qui est le centre de l'État de São Paulo de gestion des écoles techniques, qui est occupée pendant 3 jours, dans lesquels sont récupérés aussi des documents en fait qui prouvent le blanchiment d'argent, etc., qui sont récupérés par les étudiants sur les clés USB, sur les ordinateurs qui sont dans le centre administratif. Et ensuite, la semaine suivante, l'occupation de l'Assemblée législative de São Paulo, qui est occupée pendant 3 jours à partir des organisations étudiantes pour demander en fait une commission parlementaire d'enquête sur le cas des cantines scolaires. Donc ça, c'est pour la chronologie, et j'ai déjà pris 16 minutes, c'est un peu ridicule. Du coup, je vais... Oui.
Ne t'inquiète pas, parce qu'il y a une troisième intervenante
qui n'est pas là.
Ok. Malheureusement, bon, j'ai oublié de l'annoncer.
Donc, ça va, ok. Bon, alors, je vais essayer de prendre mon temps. Je ne sais pas si j'ai été à peu près claire déjà sur ce que j'ai présenté ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est pour les événements. Ensuite, sur l'analyse. Alors, en gros, en sciences politiques, il y a plusieurs façons d'analyser les mouvements sociaux, quoi. Moi, je me suis inspirée d'une auteure qui s'appelle Camille Guaran, qui est spécialiste du Brésil, qui a fait sa thèse sur la création du Parti des Travailleurs, et qui en fait s'étonne que pour des mouvements sociaux hors européens, on n'utilise pas les théories de mobilisation des ressources. C'est-à-dire, théorie de mobilisation des ressources, c'est d'analyser globalement un mouvement social, de quelles ressources il dispose, de quels obstacles aussi, face à quels obstacles il est confronté, et d'essayer de tirer un bilan et d'analyser ça sous ces critères-là. Et en fait, elle remarque que très souvent, quand il s'agit de mouvements sociaux hors européens, on entre souvent dans une analyse qui est culturaliste, de dire c'est leur culture, c'est pour ça qu'ils font ça comme ça, etc. Et donc de ne pas analyser les modes d'action sous un biais culturaliste, mais d'analyser les modes d'action en ce qu'ils ont, de ce qu'ils offrent, qui permettent de ressources et ce qui permettent de passer au-delà des obstacles. Donc j'ai choisi d'utiliser ces théories de mobilisation des ressources pour analyser les mouvements et en même temps ces mouvements de lycéens parce que c'est des mouvements de lycéens et que les lycéens sont délégitimés en fait complètement en tant que mineurs, etc. Ils sont d'une certaine façon sans ressources. Alors ils sont délégitimés en tant que mineurs. Le parti politique qui en soi pourrait être une ressource à l'action tout comme les syndicats, etc., l'organisation en soi pourrait être une ressource, en fait on se retrouve dans une situation brésilienne où la critique des partis politiques, parce que la critique de la corruption et du parti des travailleurs au pouvoir est tellement forte que c'est pas possible pour ces jeunes-là de monter une organisation révolutionnaire et de se revendiquer de cette organisation-là. Et sans ressources également parce que ils bénéficient de très peu de soutien à l'intérieur des écoles. C'est-à-dire que quand bien même ces lycéens, ils ont tout à fait conscience eux, quand ils se battent pour avoir des lieux pour étudier, pour avoir une cantine scolaire, pour avoir des bonnes conditions d'études, etc., ils se battent aussi en soutien avec les conditions en fait d'enseignement des professeurs. Pour autant, les professeurs, ils se sont pas mobilisés en compagnie des lycéens et ils ont et les rares en fait qui ont osé le faire ont subi des répressions administratives absolument effroyables de la part à la fois des administrations scolaires mais plus généralement de l'État de São Paulo et pour toutes ces raisons là on peut analyser ce mouvement là comme de la même façon que les mouvements de pauvres aux États-Unis, etc., mais comme un mouvement sans ressources. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette mobilisation des lycéens, c'est que justement, le fait de ne pas avoir de ressources, ils en ont fait une force. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir d'organisation qui soit capable de les aider, de faire le lien avec les salariés, etc., justement, en fait, eux l'ont utilisé et ont communiqué autour du fait qu'ils étaient autonomes, qu'ils ne se revendiquaient d'aucune organisation. Ils ont communiquer ce facteur-là pour ne pouvoir justement ne pas être décrédibilisé par cette critique des partis et pour pouvoir avoir du soutien de la population. Ils ont mis en scène aussi leur jeunesse et le fait que ils avaient pas en fait le droit à la parole et le droit de s'exprimer dans leurs établissements scolaires en faisant donc tout un tas de mises en scène en rappelant qui rappellent en fait la dictature, la censure, etc. Pour susciter les soutiens. Et enfin, c'est des mouvements aussi qui se sont remarqués parce que il y a eu un protagonisme très très fort des, on va dire, des oubliés de la représentation ou des oubliés de la démocratie participative à la brésilienne, dans le sens où ce sont d'abord des femmes, des LGBT et des Noirs qui ont été protagonistes de ces mouvements-là, de ces mouvements lycéens-là, et qui ont participé à les construire. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que je l'analyse aussi au niveau des ces mouvements-là, pourquoi est-ce qu'on les analyse au niveau des ressources ou pas? En fait, l'analyser sur les ressources, et donc du coup dans mon mémoire, j'ai pas le temps de tout raconter parce que en fait sinon je prends plus d'une demi-heure et c'est pas possible, mais sur la question des partis politiques par exemple, il y a quelque chose qui est très important, c'est ne pas communiquer, ne pas avoir de drapeau d'un parti et ne pas se présenter comme étant d'un parti politique, quand bien même en fait il y a eu des aides concrètes des syndicats, etc. Ils sont toujours restés en retrait et derrière les lycéens eux-mêmes. Et on se rend compte que l'organisation, bah, en fait, ça dépasse une organisation formelle, politique ou syndicale ou étudiante. Mais l'organisation, c'est aussi, bah, en fait, l'organisation du lieu de vie, les liens interpersonnels forts d'amitié, de camaraderie, etc., qui se créent dans les écoles et qui se renforcent avec le mouvement d'occupation. Et ça permet aussi de sortir. Alors c'est la première fois, ce mouvement il est notable au Brésil parce que c'est la première fois que les lycéens en fait agissent comme un sujet politique. C'est la première fois que il y a une mobilisation lycéenne d'ampleur qui dépasse justement le cas spécifique d'une école ou d'un statut, etc. Pour autant, ne pas l'analyser comme un nouveau mouvement social. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens d'opposer les nouveaux mouvements sociaux aux mouvements sociaux traditionnels. En fait, c'est un continuum et c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est nouveau, oui, parce que c'est un nouveau sujet politique et que les lycéens s'affirment de cette façon-là. Et en même temps, c'est pas si nouveau que ça, dans le sens où d'abord ils sont héritiers des luttes de 2013 et des réseaux en fait militants qui ont commencé à se monter autour du Movimento Passe Livre en 2013 contre l'augmentation du prix des transports. Et sur la question de la corruption et sur la critique des partis politiques, ils sont aussi en fait héritiers de ces mouvements de 2013. Et par ailleurs, ils sont héritiers également de luttes plus anciennes qui datent de la redémocratisation du Brésil, avec toute une réflexion en fait sur la réappropriation d'un discours du pédagogue Paulo Freire, de la pédagogie de l'opprimé, en fait, du fait de dire la relation maître-professeur, en fait, c'est une relation horizontale et le professeur, en fait, son but, ça doit être de pouvoir émanciper son élève, de pouvoir le pousser à la révolte. Et ça, il y a une réappropriation de ces thèmes-là par les étudiants eux-mêmes, parce qu'il y a eu très très peu de professeurs impliqués, mais par les étudiants eux-mêmes dans l'organisation des lieux de vie, etc. Je crois que je vais éventuellement m'arrêter là parce que j'ai été déjà assez longue, mais si vous avez des questions, voilà.
Question. On va prendre peut-être trois questions d'un coup et puis on va faire une deuxième tour de questions, s'il vous plaît.
Moi, c'est pour Abel. Moi, je parlerai du point de vue de l'université à Caen, une ville de 150 000 habitants. En gros, 15% de la population est étudiante à Caen. C'est une ville où il y a beaucoup de mouvements. Mais si je situe ça, c'est parce qu'en fait, j'aimerais savoir dans quelle mesure on vit dans le même monde. C'est une petite provocation. Quand tu dis que les étudiants ont intégré la critique de l'exploitation, pour ma part, même dans les assemblées de lutte, les étudiants et les étudiantes ne semblent pas avoir intégré tant que ça la critique de l'exploitation. Et je le dirais à partir justement de cette critique du parti que je formulerai, puisque pour moi, le parti dont tu parles, il existe déjà. Il y a dans les séquences politiques que constituent le CPE, LRU1, LRU2, retraite, et la nouvelle séquence politique, et celle qui arrive au monde de travail, des choses intéressantes qui se passent. Le CPE, il élargit en dehors de l'université la lutte directement. On est contre le CPE et son monde, je parle de cette génération-là qui arrive à ce moment-là. La LRU1 est massive, une grosse mobilisation étudiante, beaucoup de monde dans la rue et qui occupe les universités. LRU2, et bah globalement, le bilan des facs de province, en tout cas, c'est quand même la désertion des occupations. Et c'est pas l'éclate. On tient, mais on tient douloureusement. Retraite, pire. Et loi travail, effectivement, la communication, elle est rompue parce qu'il y a une nouvelle séquence politique avec 6 ans sans mouvement social qui se passe à ce moment-là. Là où je dis qu'il y a le parti qui se passe, c'est que dans la première séquence politique, CPE, LRU1, LRU2, retraite, il y a des nouvelles arrivées, il y a des nouvelles entrées, et il y a des échecs par rapport au CPE sur la LRU1, la LRU2 et les retraites. Et il se passe une forme de dessin nouveau, des stratégies à faire, notamment par l'entrée de nouvelles personnes dans le syndicalisme étudiant ou dans les collectifs, les bandes qui s'organisent sur l'université. Et on a deux conceptions de l'Assemblée qui sont radicalement différentes qui émergent. Une conception de l'Assemblée qui est celle de l'Assemblée de lutte, où ce sont les gens qui luttent, qui forment l'Assemblée. Alors, je voudrais savoir, c'est pareil dans les universités parisiennes, parce que je ne les connais pas. Et une autre conception qui est celle de l'Assemblée ouverte, œcuménique, où tout le monde a le droit de prendre la parole et tout le monde a le droit de décider des actions que va mener l'Assemblée, même s'il est contre le mouvement. Parce que tout le monde a la parole et qu'on est tous des grands démocrates. Et en même temps, ceux qui défendent cette conception de l'Assemblée ouverte, paradoxalement, font partie. Et c'est là que je voulais en venir. C'est qu'il y a un réformisme qui a gagné quelque part déjà le syndicalisme étudiant, j'ai l'impression, et notamment qui se veut hégémonique, où certaines organisations politiques d'extrême-gauche maintiennent un discours et le martèle qu'on ne peut pas passer à l'action tant qu'on n'a pas atteint une masse critique sur l'université. On se retrouve finalement avec des cadres théoriques qui pourtant sont les tiens, à avoir ce truc paradoxal qui nie la spécificité du mouvement étudiant comme étant aussi un mouvement spontané. Et qui fait qu'après, eh ben c'est les mêmes personnes qui essaient d'encadrer les mouvements lycéens, qui eux arrivent tout spontanés sur les facs, à se dire « Cool, on va faire des trucs avec les étudiants. » Mais non, pas tout de suite les gars, attendez un petit peu, c'est pas le moment, on n'est pas assez nombreux. Et qui crée justement une rupture entre cette nouvelle génération, et ma génération, ça le faisait à peu près, bizarrement, alors qu'on parle pas la même langue, qu'on n'a pas le même argot, etc., ça le faisait parce que nous on maintenait un discours de la spontanéité, mais c'est la génération 2009-2010 qui paradoxalement nouait l'élément de rupture entre cette jeunesse spontanée des lycées et la génération qui était la mienne.
Alors moi aussi, j'aimerais demander à Abel, en quelle mesure on vit dans le même monde, dans ton exposé, tu décris assez clairement les conditions matérielles des étudiants et des lycéens. Enfin, donc, je devrais dire des universités et des lycées, vu qu'en fait, t'as pas l'air trop de t'intéresser aux étudiants et aux lycéens. Du coup, de ça, t'en déduis les aspirations et les intérêts qu'ils ont, ainsi que les mots d'ordre. Donc, là, moi, j'ai un problème qui est comment t'expliques qu'au cours du dernier mouvement, et en fait, pas au cours du dernier mouvement, mais au moins depuis une dizaine d'années à Paris, que ce soit spécifiquement les lycées de Paris-Est qui bougent, qui ne sont pas connus pour être les quartiers les plus populaires de Paris, et qu'en banlieue, on ait une baisse de la mobilisation au cours des derniers mouvements. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le second point, c'est sur les conclusions stratégiques que tu tires de ton constat. J'ai un peu du mal à comprendre, parce que ton constat, la façon de parler, de faire de la politique, c'est extrêmement aride, extrêmement froid. Ça paraissait extrêmement lointain. Et de temps en temps, ça paraissait très concret, tu vois, parce que tu étais là, tu annonçais des grands mots. Oui, il faut former les gens à parler de ceci, cela avec les ouvriers. Il faut avoir des mots d'ordre qui soient clairs. Enfin, je pense que c'était un tacle aux banderoles qui m'était sorti au cours du mouvement de la loi de travail, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et du coup, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que les gens qui déploient ce genre de banderoles, qui s'organisent non plus sous la forme partisane, mais qui font de la politique en bande, ces gens-là, en fait, ils ont pas cherché à partir des conditions matérielles de l'université et des lycées pour faire la politique, mais en fait, de là où ils étaient, tu vois. Et en fait, la politique, c'est plus un truc abstrait, qui est loin, qui est froid, qui arrive, qui est l'espèce d'équation mathématique que tu nous as donné au début, et c'est pas non plus le vieux trotskiste trop chiant qui là essaie de vendre ton journal qui a 60 piges pour révolte jeune, qui est habillé comme dans les années 40, tu vois. Ça, en fait, ça parle à personne, tu vois. En fait, ces gens-là, tu vois, ils ont sorti des. Ils ont pris des mots d'ordre, les gens, ça leur parlait, c'était leur quotidien. La politique, elle était là, tu pouvais t'en saisir. C'était pas lointain, c'était pas ce que tu proposes. En fait, enfin, ouais, tu passes à côté de toutes les autres aspirations qui poussent les gens à se mobiliser. En fait, il n'y a pas que le truc matériel. Et en plus, le contenu matériel, il ne fonctionne même plus, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas quoi te dire d'autre, quoi. Je m'énerve.
Bon, est-ce que tu voudrais réagir tout de suite
à... Ouais, peut-être, comme ça, ça fera pas une interf trop longue, quoi. Donc, la première question, que tu t'appelles
Simon.
C'était sur la question de l'intégration de la critique de l'exploitation, c'est ça, hein, et puis sur l'autre question du réformisme du syndicalisme étudiant. Alors, sur la question de l'intégration de la critique de l'exploitation, j'ai pas dit qu'effectivement, c'était quelque chose qui était... Qui ressortait, disons, des consciences, qui étaient présents dans les consciences, et qui c'était absolument ça, les mots d'ordre, etc. Bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de mots d'ordre incomplet, c'est qu'il y avait une, progressivement, à mon avis, les aspirations changent un petit peu et passent de revendications intra-universitaires sur la question très spécifique des contenus des cours, etc., de l'organisation, en fait, de l'université, à une critique un petit peu plus diffuse, etc., et qui prend différentes formes sur la question directement du travail, en fait, donc de la précarité au travail ou de la précarité des conditions de vie, et plus uniquement comme la loi de Vaquet, les mouvements de 73, etc., qui avaient cadre politique, cadre d'expression, l'université, comme objet politique, l'université aussi. C'est-à-dire que là, ça dépasse un petit peu, et le mouvement de solidarité des travailleurs et des syndicats avec les étudiants au monde du CPE montre aussi un petit peu, disons, ces ponts qui peuvent se faire. J'étais vraiment en train de dire que c'était quelque chose qui était présent et déjà là, présent dans chaque conscience.
C'était pas vrai, surtout, en fait. Il y avait un lien entre les syndicats et les organisations étudiantes. En vrai, les cortèges autonomes, comme les cortèges de tête d'aujourd'hui, qui étaient devant, se battaient avec la CGT pour passer devant.
Oui, non, mais ça, c'est que
la solidarité, pour moi, elle est pas...
Bien entendu, mais qu'il y ait des luttes, si tu veux, qu'il y ait des luttes fractionnelles dans les mouvements, c'est une évidence. Hein, je suis pas en train de dire... C'est l'amour fou et que tout va bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre la façon dont les étudiants sont reçus aujourd'hui, d'une manière générale, par les travailleurs, qu'à l'époque de 68, où le service d'ordre de la CGT, d'une part, celui que tu critiques, et à raison d'ailleurs, était partout, systématique, et qu'il y avait une virulence beaucoup plus large vis-à-vis des étudiants, et c'était quelque chose d'encore plus net avant. D'autant qu'il y avait deux classes sociales qui s'affrontent, les étudiants étant d'extrême droite, etc. Et ensuite, pour répondre à ce que tu dis, comment tu t'appelles ?
Bob.
La question que tu soulèves, c'est tu me reproches d'être, disons, déconnecté des réalités. Je suis pas, quand j'ai dit que les mots d'ordre étudiants étaient foisonnants, j'ai justement dit que c'était une force, que la spontanéité elle était caractéristique du mouvement étudiant, fondamentale, que c'était de ça que ça partait. Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié de te répondre, Simon, pardon, sur le réformisme le réformisme des syndicats. C'est ça que je décrivais à grands traits et très rapidement quand je parlais du pourrissement des organisations qui ont effectivement freiné des cas de fer dans les assemblées générales et en permanence dans le dernier mouvement de la loi travail, pour massifier le mouvement, parce que au fond, même si ils appelaient à la massification, rien n'a été fait pour, et tout en bloquant les initiatives effectivement qui auraient pu peut-être débloquer la situation, avec notamment le blocage de l'université, pourquoi pas, parce qu'effectivement la LRU2 que tu décris, ce qui amorce un tournant dans la mobilisation, c'est quand les étudiants reviennent sur le devant de la scène et que les blocages, les occupations se remettent en place, et qu'avant ça, en fait, pas vraiment de mobilisation. Donc évidemment que ça, c'est quelque chose que j'essayais de mettre, tu as tout à fait raison de le pointer. Et toi, ce que tu disais, Bob, ce que j'essayais pas évidemment de proposer un petit manifeste prêt à l'emploi, etc., simplement de décrire une tendance générale sur la question, les possibilités stratégique du mouvement étudiant, et c'est-à-dire avoir l'idée, simplement prendre, disons, la mesure de ce que veut dire, de ce que veulent dire les mutations de l'université, la mutation des modes d'action dont ce que tu décris fait partie intégrante. Puisque la question du regard, par exemple, la question. Non, bien sûr, mais la question, par exemple, du travail, la question du travail qui était quand même centrale dans la critique de la loi travail est présente dans les revendications et les mots d'ordre foisonnants et créatifs du cortège de tête. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je dis pas que c'est une
un slogan du cortège de tête
écoute, sur la question, la critique du travail, même si c'est une critique, une critique dans un autre sens que celui de la critique consciente de l'exploitation, je dis pas que c'est ça qui ressort, mais la tendance, c'est comme ça que je l'analyse, c'est une tendance à mon avis, et que le rejet du travail tout court, par exemple, qui est un mot d'ordre aussi, et qui affleure dans les manifestations, pas de travail du tout, on s'en fout, etc., par exemple, c'est une partie de ce que j'écrivais, et c'est tout à fait légitime et politiquement relativement juste, pas à 100% pour moi, mais relativement juste de critiquer ce travail-là, cette précarité auquel on s'expose, etc. Donc voilà, c'était ça le sens de mon intervention. Après, je comprends que ça soit pas exactement dans les formes ce qui correspond forcément le mieux à l'état d'esprit général, mais il faut bien revoir aussi la manière dont j'ai voulu moi prendre le prendre cette question, quoi, des possibilités stratégiques, etc.
Il y a l'état d'esprit général, il y a le fait que c'est à cause de gens comme vous, mais à cause de discours comme le sien, qu'en fait les jeunes, qu'on a fait une traversée du désert, les gens, tu vois, ils ont fait plus de plus entendre parler politique, tu vois. C'est qu'en fait, c'est une façon de présenter les choses, c'est une façon d'en parler. Que la façon dont on en parle, en fait, on n'a pas envie, tu vois, d'y aller. En fait, tu vois, c'est ça, c'est moi, je suis là, je t'écoute. Oui, ce que tu dis, c'est vrai, c'est beau, c'est propre, tu vois, c'est séduisant. En fait, j'ai pas envie de descendre dans la rue pour ça, tu vois, ça ne me fait pas vibrer.
Mais là justement, la question plurielle, justement, la question plurielle des motifs est à mon avis centrale, et je critiquais pas ça au point de dire que c'était pas quelque chose qu'il fallait cultiver. Je veux dire, c'est il y a des choses qui font vibrer, ben écoute, tant mieux. Et c'est justement ça le caractère spontané. Non, mais s'il y a d'autres choses que je veux dire, c'est le caractère spontané justement des mobilisations étudiantes. C'est aussi ce qui font leur force. N'empêche que des analyses peuvent être menées de ce point de vue-là.
On va prendre encore trois questions.
Oui. En fait, là, c'est exposé tout à l'heure. C'est clair, c'est pas une question de fond théorique ou de quoi que ce soit, c'est la manière dont expose les choses dans une extériorité qui est universitaire, qui semble bien dégueulasse. Franchement, moi, il y a un an, je savais même pas trop c'était quoi la politique, et si c'était des gens avec un discours comme ça, qui seraient venus me voir, mais je serais parti en courant et à 10 km, parce que franchement, à un moment, la politique, c'est un truc qui, quotidiennement, on parle pas. Des concepts abstraits du marxisme d'il y a 60 ans, et je parle plus à personne. Moi, la politique, c'est un truc qui se vit, qui se ressent quotidiennement, et où, sur lequel tu mets des mots, des pratiques, mais des pratiques qui parlent et pas des trucs. Franchement, pour te dire, c'est même des gens comme nous qui sommes politisés, on trouve qu'il y a un problème qu'on a du mal à comprendre et qu'on trouve ça complètement abstrait. Imagine pour des gens qui sont pas dans ces délires-là. Mais c'est pour ça que le truc de t'es sur une autre planète. Ça renvoie à ça. On voit en fait que c'est un langage qui est d'une planète, non ? Je ne peux plus présenter ce truc comme ça. Surtout si tu as l'air d'être quelqu'un qui est parti pour lutte, etc. C'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant d'avoir un langage vachement, une posture d'extériorité universitaire en mode où il faudrait faire les choses comme ci, comme ça, comme machin, avec un truc. Ça crée un parti, je sais pas, des trucs qui paraissent mieux dehors seul.
C'est un problème. C'est une question de travail universitaire sur la question. On a le droit de même la poser. Il aurait pu la poser autrement en faisant un mémoire universitaire, c'est pas un problème.
Il y avait un monsieur qui s'est inscrit, je crois, pour parler.
N'est pas correspondre à ce qu'on avait vu l'année dernière, et parce que là on n'a pas envie non plus de reproduire le mouvement social qui vient de démarrer, et on n'a pas envie de se prendre encore une plaque comme l'année dernière. Le problème, c'est que vous parlez de cette question du travail dans une société capitaliste comme celle dans laquelle on est, devient centrale. Mais le travail, c'est central. Et on nous fout dans la merde à nous, tout le monde. Comment on fait pour s'émanciper? Comment on fait pour... Non, mais le travail, si tu n'as pas de boulot, t'es dans la merde. Si... Mais aujourd'hui, tout passe par ces boulots. Et on est obligé de se définir par rapport à ça. Parce que c'est par là que ça nous tient. Donc, dis-moi... Moi, je m'avais bien, hein, j'ai de la bouteille, quoi. Et ça fait longtemps qu'il y a des questions comme ça de ce type que j'aimerais bien qu'on puisse y répondre, parce que ça fait 200 ans qu'on est dans la merde. Donc, si vous pouvez avoir... non, mais moi, on est ouvert, enfin, vraiment, on entend quelque chose qui sorte de ces discours qui est, là, pour le moment, c'est critique à nos positions, donc on sait peut-être ce qu'on ne veut pas. Mais est-ce que vous pouvez préciser un peu plus ce que vous voulez? Et je parle de nous
En fait, il n'y a rien à préciser, et en fait, on n'a rien à proposer, parce que c'est ce qui est en train de se faire, en fait, quelque part, et c'est ce qui s'est fait pendant le dernier mouvement, toute la loi de travail, en fait, c'est que les gens, ils descendent dans la rue pour des milliards d'autres choses que juste lutter contre une loi, et en fait, c'est ça, enfin, et... pour lutter pour un taf, pour plus tard. En fait, les gens, ils éprouvent quelque chose.
On va reproduire les cortèges de tête comme l'année dernière, comment s'est passé le 1er mai, où on a combien de blessés. Est-ce que... Là, parce que là, on est presque à la limite.
Je suis désolée. En fait, nous avons coupé la parole à un camarade qui a commencé à parler.
Non, je parle. J'ai pas autant de bouteilles que la dame qui vient de parler, mais je suis plus un des jeunes en question. Par contre, après être passé par été d'abord évidemment lycéen, étudiant, etc., etc. Maintenant, je suis à la fac du Mirail à Toulouse depuis un certain temps, qui est quand même un lieu aussi où il y a, on va dire un certain degré d'activité politique un peu en continu. Et par rapport à la discussion qui s'ouvre, on va dire deux ou trois choses. Il y a effectivement un changement de séquence politique dans les dernières années qui a brisé tout un ensemble de repères, d'habitudes, etc., qui étaient encore structurants dans les mobilisations qui sont allées autour du CPE, la génération post-CPE, LRU 1, LRU 2, parce que même si dans d'autres facs, la LRU 2, le printemps 2009, a été plus faible côté étudiant au Mirail, en université du Mirail et tout, ça n'a pas été le cas, vu qu'il y a eu autour de 4 mois de blocage. Bon, et puis ça a été la première évacuation historique.
Nous aussi, c'est juste, on a été l'occupation la plus longue dans toute la France, mais par contre, on était 4 premiers bâtiments.
Voilà, c'était un peu plus massif qu'au Mirail, mais c'est logique vu l'historique de l'université, mais c'est vrai que c'est minoritaire à l'échelle nationale, ces réalités-là. Bon. Mais il y a effectivement toute une recomposition et une crise profonde de l'ensemble de ces organisations, et pointer les phénomènes de décomposition, de bureaucratisation, etc., c'est important, parce que ça signale qu'il y a effectivement une fin en course d'un certain type d'organisation qui, dans la durée, ont fini par jouer plus un rôle d'anesthésie à certains égards, à certaines dynamiques de mobilisation, d'un rôle réellement structurant et progressiste, comme ça avait pu être dans la période passée. Donc c'est une période effectivement de transformation en ce moment. Et la mobilisation de 2016, elle incarne ça dans le milieu étudiant et lycéen. Deuxième aspect, il y a une chose qui se généralise quand même, qui s'ancre, me semble-t-il, dans la période, c'est un degré de malaise historique de la jeunesse sous toutes ses formes, qui n'a en fait rien à voir avec les périodes antérieures et même 86. Je veux dire, le degré de dépression, de suicide, de machin, tout ce que vous... On est face à un degré de malaise d'une nature profondément nouvelle, me semble-t-il, et avec beaucoup d'éléments de désorientation, des aspirations extrêmement profondes et plus, en quelque sorte, plus vitales, plus viscérales qui s'expriment, et avec lesquelles, c'est sûr que ce n'est pas avec des formules poussiéreuses qu'on peut arriver à dialoguer. Ça, c'est un constat sur lequel je suis, personnellement, je suis d'accord. Et pour parler de cette expérience, je vois cette différence-là dans les générations, ça fait 13 ans que j'enseigne, la génération des 4-5 dernières années, ça n'est pas la même qu'avant. Pourtant, c'est le même type, dans le même type d'études, mais ce n'est pas, il n'y a pas les mêmes repères, il n'y a plus les mêmes repères du tout. Après, tu disais là, dans la réponse à la dame, quelque chose qui me semble symptomatique, c'est que tu dis, nous on n'a rien à proposer, les gens descendent, etc. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Effectivement, il faut être capable de... c'est ce que tu as dit. Alors peut-être que... on peut préciser, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement un type d'aspiration, un type de besoin, un type d'attente de quelque chose, que la politique soit quelque chose de vivant, qui fasse sens, qu'on puisse s'approprier, qu'on puisse se battre pour ça. Ça, c'est évident. simplement ça, c'est pas autosuffisant de dialoguer simplement avec ces sentiments-là. Parce que quand on est face à un Macron et compagnie et consorts et ailleurs, quand on est face à des piliers, c'est-à-dire de co-gestion de la politique que ces mecs-là mènent, type force ouvrière, c'est-à-dire des centrales syndicales qui ont un poids structurant, etc. Comment, au-delà d'une échelle réduite, on arrive à s'organiser de façon consciente, pas simplement, je veux dire, pour le principe ou pour l'honneur, mais pour les battre. Et comment, avec quelle clarté, quels moyens on se donne pour les affronter méthodiquement.
Sur la question du travail, je pense que c'est hyper clair de répondre. Oui, c'est possible de vivre sans bosser.
Je termine juste, tu permets ma phrase.
Il y a des gens qui font ça un peu partout. Et en fait, c'est juste des trucs, en fait, ça se sait sans savoir. Et évidemment, les moyens pour y arriver, c'est des moyens qui sont pas légaux. Donc évidemment, c'est des trucs.
La question, c'est pas celle de la légalité. Si je peux terminer ma phrase, s'il te plaît.
Il a pas fini de parler, je crois.
C'est possible.
Et ça.
Il y a
une demande
de parole.
Je
vais
la parole.
Je termine donc juste. Si cette question-là, et c'est ça le sens de la question stratégique, c'est pas simplement la question immédiate, la question comment on réagit, comment on fait venir des gens, comment on touche un certain nombre de gens, c'est comment ça, après, ça peut se cristalliser dans des batailles organisées, qu'ils soient capables de vaincre. Et ça, on a à reconstruire les outils de ça. Parce que si on se pose pas cette question, alors ça veut dire aussi que c'est vachement confortable.
En fait, il a eu raison d'intervenir assez rapidement, c'est-à-dire que la vraie question, c'est celle de la multiplication des bandes et de leur coordination dans l'action. Et ça, c'est la vraie question, en fait, comment tu fais vivre la politique au quotidien, ça passe par ce qu'il disait, tu vois. Ça passe par le fait de ne pas voter, enfin, de ne pas taper, de vivre autrement, tu vois. C'est ça, la vraie question, au-delà du truc de comment tu recrées une organisation pour vaincre les pauvres, pour massifier la lutte, tu vois, cette espèce de truc complètement abstrait, qui veut au fond rien dire, tu vois. En fait, ça veut dire quoi, massifier la lutte? Ça veut dire quoi, avoir une agrégation d'individus dans la rue, qui, en fait, ne font rien les uns avec les autres, qui sont juste des stats, quoi. C'est quoi, ça? C'est rien, c'est pourri, c'est même pas une force. C'est une masse à mort de gens qui, en fait, n'ont aucun poids, n'ont aucune puissance. La question, c'est comment tu constitues quelque chose de fort. Tu vois, c'est ça, et c'est ça, donc qu'est-ce qu'on a à proposer. Ouais, on n'a pas des espèces de manuels, tout ça, à l'emploi. Ouais, c'est des choses, c'est en train de se faire.
Bon, il y a donc encore deux personnes qui veulent prendre la parole.
Moi, je veux plus interdire Bob.
Donc trois interventions alors.
Non, mais j'en cours. Je pense aussi, même tu l'as mal dit, sur cette réappropriation du mot politique qui est quand même notre quotidien, qui est nos choix et nos manières de vivre ensemble. Et les luttes, elles sont là-dessus en ce moment, et pas du tout sur une politique externalisée, mais une politique au quotidien, et du quotidien. Et quand elle veut, je crois, elle dit très bien ça. Et ça fait longtemps d'ailleurs, ça fait depuis 86, même un peu avant. Voilà. Bon, c'est tout.
Je concentre tous les siens.
J'ai beaucoup de mal,
c'est très grave. Il peut sembler un peu trop critique dans ce contexte de devoir réchauffer, mais effectivement, derrière cette encouragée très sincère, j'ai entendu plusieurs fois la qualification de l'université comme bourgeoise. L'industrie bourgeoise comme un concept en soi. Et je me demande si c'est vraiment une question de la qualification, si les instances de la gouvernance utilisées comme les AG de labo, les comités d'étudiantes, les commissions de discrimination font partie de l'université bourgeoise. Est-ce que c'est bourgeois? Ce sont des outils bourgeois. Et par contre, justement, j'ai plusieurs questions. Je trouve que c'est une expérience exceptionnelle, le mouvement qui a continué sans lâcher l'ampleur. Si je comprends bien, non,
il a un peu décru, mais vas-y, oui. Je t'en prie.
Et justement, dans ce contexte de débat, ce serait intéressant d'abord de savoir en quelle langue ce mouvement a parlé au fil de ces deux, trois ans. Mm-hmm. Est-ce que le langage a changé? Est-ce qu'il y avait des ajustements et les recherches des paroles qui mobilisaient les nouveaux entrées. Alors, la deuxième question, je trouve exceptionnellement intéressant l'arrivée de ces gens avec les drapeaux nationaux, les porteurs du discours de la corruption, plutôt anticorruption. Si j'ai bien entendu, au bout d'un certain moment, c'était aussi le mouvement lycéen qui a commencé d'élaborer le discours anticorruption. Alors, est-ce que c'était un résultat de la convergence des mouvements ou le trajectoire de ce mouvement, disons, nationaliste ou patriotique était différent? Comment c'était l'agencement de ces parties, si on peut dire? Et troisième question, un peu plus générale, qui touche à peu près le même terrain, est-ce qu'il y avait un changement important, une rotation du noyau dur des militants dans le mouvement durant ces trois ans? Ou c'est au contraire se consolider?
Est-ce qu'il y a d'autres questions aux intervenants?
Non, bah, je peux essayer de répondre du coup. Alors, sur la question des mots d'ordre, en fait, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est le refus. À la fois des organisations étudiantes et des étudiants autonomes qui sont encore donnés pendant le mouvement, le refus en fait d'analyser l'impeachment de Dilma Rousseff comme un coup d'État, ce qui a été globalement le narratif dominant à gauche. Donc ça, c'est assez intéressant sur la question des mots d'ordre. En fait, c'est un refus du coup qui est justifié pas seulement par les autonomes, mais aussi en fait par des étudiants dans, on va dire, pour grossir le trait, mais l'équivalent de des syndicats lycéens qu'on a chez nous qui sont liés à l'UNEF, etc. Bon, voilà, il y a à peu près la même chose des organisations lycéennes qui remontent à loin, et en fait y compris les responsables de ces organisations là à São Paulo en fait ont refusé d'utiliser le mot d'ordre du coup d'État pour mobiliser en 2016. Eux en fait ce qu'ils disent, c'est on mobilise sur quelque chose de concret, de nos conditions de vie dans notre État, et en fait voilà, les mots d'ordre, il y a eu un mot d'ordre qui est assez intéressant sur justement le, donc ils ont été beaucoup critiqués forcément par la droite et par le gouvernement de São Paulo en disant c'est tous des gens qui sont liés au PT, liés au parti d'extrême gauche, etc. Un mot d'ordre, c'était notre drapeau, c'est l'éducation. Quelque chose d'assez clair. Et après, dans les mots d'ordre, et s'il y a eu des inflexions, la question de l'occupation, en fait, et donc du moyen de lutte, c'est devenu un mot d'ordre en soi. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements-là, en 2015 et 2016, c'était à São Paulo, mais en fait, à partir de 2016, et donc suite au processus d'impeachment, il y a eu des mouvements d'occupation dans en fait beaucoup d'autres États au Brésil sur des questions à la fois des États fédérés. Alors dans l'État de Goiás par exemple, il y a projet de militarisation de l'enseignement, il y a eu plein de projets, mais aussi sur des mots d'ordre pour le coup là dans d'autres États sur les mots d'ordre de l'impeachment. Et le mot d'ordre, c'est d'occuper contre le nouveau gouvernement, en fait. Et donc là, tu vois que la forme de l'action, en fait, a lieu de revendication en soi, jusqu'à des revendications là pour l'occupation de Brasilia, de la capitale politique du pays, suite à l'installation du nouveau gouvernement. Ensuite, c'est ta question sur l'articulation entre le patriotisme et l'anticorruption. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc en 2013, ces deux trucs-là ont marché ensemble parce que c'était une façon de la droite et en fait de la nouvelle extrême droite quand même brésilienne de demander la sortie de pouvoir de Dilma Rousseff, parce que même avec des énormes biais néolibéraux, il y a quand même une volonté de faire un peu des aménagements pour les femmes, un peu des aménagements pour les peuples indigènes, etc. Et en fait, la droite ruraliste qui a des terres immenses, qui est extrêmement traditionnelle, qui est contre l'avortement, etc., souhaite couper court à ces politiques-là et très rapidement. Donc du coup, c'est pour ça que ça a marché ensemble. Après, les lycéens, quand ils se sont réappropriés, ils ne sont pas
du tout réapproprié des mots d'ordre patriotique, je veux dire, à aucun moment, et c'était plutôt l'inverse. Ils ont, en fait, eux, ce qu'ils ont dit aussi de leur enseignement, c'était de remettre en cause, à un moment donné, l'enseignement de l'histoire brésilienne telle qu'on la faisait, où en fait, on leur faisait l'enseignement des anciens esclavagistes, etc., qui participent à la construction de l'histoire nationale. Donc ça, ils l'ont critiqué, ils n'ont pas du tout un discours patriotique. Par contre, de critiquer la corruption, la déviation d'argent public et le blanchiment d'argent à des échelles absolument immenses, ça, c'est... En fait, c'est quelque chose qui est assez général dans le climat politique brésilien aujourd'hui, où globalement, là, il y a un nouveau gouvernement qui est en place, du coup, qui n'a pas été élu, qui est un gouvernement qui est ultra méga corrompu, dans Petrobras, je veux dire, ils ont été, comme le PT, Lula et compagnie, ont trempé sur l'affaire de Petrobras, mais en fait, tout le gouvernement tout autant. Théoriquement, il y a des élections en 2018, mais en fait, là, les messages qu'envoie le gouvernement, c'est que peut-être il n'y aurait pas d'élections. Donc, si tu veux, la question de la corruption, elle est absolument générale. Enfin, et t'as des critiques de gauche, évidemment, de cette question corruptive, quoi. Et ensuite, sur la question de la rotation des éléments, alors ça, c'est effectivement intéressant parce que, en fait, donc le mouvement en 2015, il s'est justement, en fait, il mettait en valeur des valeurs d'horizontalité, de rotation des tâches au sein des écoles, etc. De rotation y compris du porte-parole, et par la mise en valeur, notamment, il y a eu beaucoup de femmes, en fait, qui ont été porte-parole des écoles occupées. Et ça, c'est un élément, je pense, qui est assez nouveau et qui est assez intéressant. Après, de rotation réelle, c'est compliqué à dire, dans le sens où on se rend compte assez rapidement que les éléments qui sont mobilisés jusqu'à la fin de ces mobilisations et qui continuent en fait à se coordonner aujourd'hui dans les lycées, c'est des individus qui étaient déjà très politisés en 2015, qui côtoyaient déjà en fait des groupes plus autonomistes, des groupes plus proches du MPL, etc. Donc de réelle rotation, c'est difficile. Je pense qu'il y a surtout en fait un débordement à un moment donné des cadres préexistants, des groupes militants qui est préexistant en 2015 et en 2016, parce que un contexte de crise politique aussi, voilà, qui vient, qui s'annonce. Je veux dire, l'impeachment de Dilma Rousseff, il a commencé en 2016, mais en fait depuis 2014, les parlementaires cherchaient à faire passer une mesure d'impeachment. Donc du coup, c'est je dirais plutôt le noyau dur, en fait, il était déjà présent, il s'est consolidé, il y a eu, bien sûr, il s'est massifié, quoi. Mais globalement, les personnes qui, les lycéens, je veux dire, qui sont mobilisés en 2015 et en 2016 et qui restent mobilisés aujourd'hui, c'est peu de personnes et ça reste les mêmes gens. Et, enfin, voilà, c'est pas. Ce qui n'est pas anormal. Hein.
J'aimerais poser une question. Les lycées dont tu parles, c'est quelle classe sociale?
Alors,
c'est
oui.
C'est énorme, le clivage, parce qu'il y a une énorme partie de la jeunesse qui n'a pas du tout accès au lycée.
Alors c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, l'accès au lycée, l'enseignement, il est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, ils sont globalement, tout le monde est scolarisé. Après, l'enseignement secondaire, donc là, vraiment, les lycéens, c'est beaucoup plus compliqué parce que donc c'est 2 ans d'enseignement secondaire. Et en fait, la deuxième année, il y a l'équivalent du bac, sauf que c'est pas le bac, parce qu'il y a 60% des gens scolarisés qui ne passent pas cet examen-là, il n'est pas obligatoire. Et en plus de cet examen-là, il y a des concours d'entrée pour les universités, parce que l'université est sélective. L'accès à l'université, il est ultra méga minoritaire, je veux dire, c'est des classes sociales les plus hautes, hein, qui ont accès à l'université. Il y a quelques politiques dans quelques universités de quotas ratio, mais en termes de classe sociale, ça représente pas grand chose. Après, là en 2015, justement, ce qui est intéressant, alors beaucoup moins en 2016, puisqu'en 2016 c'était plus les lycéens des lycées techniques, donc qui sont des lycéens effectivement voilà, de classe sociale, on va dire moyenne, parce qu'ils ont déjà passé un processus de sélection, etc., qui sont des gens qui sont plus politisés. Mais en 2015, c'est pas le cas, et pour le coup, c'est des gens des classes très populaires dans l'intérieur de São Paulo qui se mobilisent et qui ont commencé en fait à occuper les écoles. Et c'est ça qui est assez intéressant, justement, c'est qu'il y a des inégalités sociales qui sont tellement fortes que en fait la mobilisation en fait elle a permis aussi de dépasser et de créer de la solidarité en tout cas en 2015 et après un peu moins vrai parce que ça s'est essoufflé voilà comme tout mouvement social mais voilà.
Est-ce que je réponds sur la question de l'université bourgeoise, elle est, quand je dis université bourgeoise, elle est bourgeoise au sens où elle a un rôle social à remplir, c'est de reproduire la main-d'œuvre qualifiée nécessaire à l'économie, ainsi que les têtes dirigeantes, etc. Après, évidemment que l'université qu'on décrit, elle est issue d'un compromis d'après-guerre, et qui évidemment fait qu'elle n'est pas bourgeoise au sens où tout est contrôlé. Ceux qui y sont et en font partie ont des moyens de s'exprimer qui leur appartiennent et qui sont autonomes et qui font que évidemment le Big Brother ne regarde pas à tous les étages et absolument partout. Donc c'est en ce sens, c'est au niveau simplement fonctionnel et social que je la décrivais comme telle. Après juste pour dire une chose à ton adresse Bob, la question de quand tu dis que la massification est une question abstraite, moi je crois que ça renvoie, que ça reflète très bien le désarroi dans lequel tu te trouves vis-à-vis de cette question de la massification. Tu t'assois sur deux siècles de mouvements ouvriers, notamment victorieux. Si tu penses vraiment que gagner n'est pas important, moi je te retourne la question, sur quelle plaine vis-tu ?
Voilà. Non, c'est pas ça qui est bon. C'est que je veux dire, en fait, ce que tu cherches, c'est d'avoir une masse d'individus agrégés les uns des autres qui font rien ensemble, qui sont en fait, qui ont la même vie que Vincent. Que la rue, en fait, c'est la prolongation de ta vie normale et que juste tu vas finir dans une manif, c'est comme aller au travail, quoi. C'est la même chose. Ouais, c'est ce truc-là, en fait. Massifier, c'est pas si tu t'envoies des gens dans la rue, je vois pas trop l'intérêt. C'est une espèce d'obsession pour le chiffre. Très peu intéressante, sauf si tu allais négocier dans un bureau en disant oh, regardez, nous avons des millions de gens derrière nous. Mais bon, sinon.
Un million de personnes dans la rue qui font rien, ça reste un million de personnes, c'est les soldes au Noël, quoi. Ouais. Pour 50 000 personnes qui font quelque chose dans la rue. Ah oui. Ah, ouais.
Oui, parce que depuis 2006, il y a eu une fois où il y a eu une défaite en 2010, où il y a eu 1 million de personnes dans la rue, mais depuis, il n'y a pas eu 1 million de personnes dans la rue. En fait,
et je pense qu'il ne faut pas jouer entre la massification et la question de l'augmentation qualitative du mouvement et la massification. On assiste quand même à un débat un peu surréaliste entre les tenants d'un orthodoxie chelou et les tenants de la fête de slip. Ce débat était surréaliste. Quoi. En fait, c'est pas. On n'est pas là. Non, en fait, il y a des choix opérés pour mener de front ces deux trucs-là. Et la question, c'est pas d'opposer la massification à l'augmentation qualitative du mouvement. La question, c'est de faire augmenter qualitativement et non numériquement le mouvement. Et en fait, c'est comme ça que tu fais quelque chose.
C'est ce qui s'est passé pour le contrôle de tête. Au départ, il y avait 50 personnes, ça a tout le monde 10 000 personnes. On a massifié, finalement.
Alors que la spontanéité, la spontanéité, ce qui s'est passé notamment, j'ai l'impression, dans pas mal de pays, de corps, de
pays, sur ce qu'on appelle la spontanéité, on a des fois c'est pas la peine,
Le
fétichisme de l'organisation et auquel répond un fétichisme. Enfin, en fait, il y a des.
Non, déjà,
c'est un peu le truc. C'est un monde qui est construit dans le.
Peut-être renvoyer à la spontanéité, c'est une grosse invalidité. Parce qu'en fait, il n'y avait rien de spontané dans les manières de surgir du courtage du texte. C'était de plus en plus organisé. Et c'était là que se trouvait l'organisation. Du coup, ce truc-là, de renvoyer à la spontanéité, c'est une blague. L'organisation, elle était là. Ça
est-ce que vous savez qu'est-ce qui a permis qu'il y ait eu cette organisation, essayons de comprendre parce que là je vois qu'en tout cas il y a beaucoup de gens que ce soit dans les milieux autonomes comme pas autonomes du tout. On est quand même dans un discours de la bataille de 2016, on l'a perdue. Bien évidemment, Macron est passé, on est dans une merde pas possible. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais il y a un discours quand même assez négatif, assez d'échec. Sachant qu'en plus, que l'on soit autonome ou pas, là, on est chacun dans son couloir. Et ce qu'on voit, ce ne sont que des discussions où on se rentre dedans. On n'est pas vraiment à essayer de comprendre. Moi, je voudrais faire des cortèges de tête. J'ai vu à une réunion hier pour des gens du cortège de tête qui n'avaient pas la même position et les mêmes talismans que vous, et qui se posaient des questions. Et je pense que là, il faut vraiment qu'on enfin, je ne vois pas de votre part. Vous parlez de bandes, vous parlez d'affinité, mais moi, ça ne me suffit pas. Quand je disais tout à l'heure que le travail quand même au risque central au niveau du capitalisme, je sais très bien qu'on peut très bien ne pas bosser, qu'on peut voler, qu'on peut s'arranger à vivre. Et on les chatouille, le capitalisme. C'est ça le problème. C'est que ça peut durer des siècles et des siècles. Et que cette histoire de spontanéité, je crois que les anarchistes aussi se sont fait enculer énormément de fois par des marxistes, par des staliniens, parce qu'ils étaient dans ces côtés romantiques, on crée tout ça dans l'action même. Bon, essayez de me donner des arguments, parce que moi, ce que je vois, ce n'est qu'on est allé d'échec en échec, quoi. Regardez les films, bon, moi, je l'ai bien aimé, peut-être que vous ne l'avez pas aimé, mais l'histoire de ni Dieu ni maître, bon, enfin bref, vous voyez ça. Moi, ça dit que c'est ce que je voulais que je vous dise. Essayez de me convaincre. Ça fait tout 5 ans que ça dure, quoi.
S'organiser au quotidien pour essayer d'échapper autant que possible. Et c'est jamais, on n'y arrivera jamais, tant qu'il n'y aura pas eu un dépassement général. Pour sortir, pour avoir une vie non économique, c'est possible. C'est un rêve romantique et c'est très. C'est concret et c'est pas du spontané, c'est des trucs qui.
Si vous n'avez plus de questions, si Louise et Abel, vous n'avez plus de remarques.
Ça, c'est fini, là, non.
Bon, voilà, donc.
J'ai une question pour toi après.